Un homme plongé dans la boue n'a pas besoin qu'on vienne lui faire des discours sur la saleté de la boue. Il a plutôt besoin d'une main compatissante à laquelle il peut s'accrocher pour sortir de la boue. Nous sommes cette main compatissante.
Que le ciel vous soit favorable pour ce précieux travail. Et que le Dieu d'Israël exauce vos prières et qu'il use de sa bonté envers tout un chacun de vous à cause de ce que vous faites pour son royaume. Je vais vous inviter à tourner maintenant les pages de nos Bibles, nous tous, dans Matthieu chapitre 28, nous allons lire du verset 18 au verset 20. Matthieu chapitre 28, 18 à 20, la Bible dit ceci, que Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Père, nous te disons merci pour ce temps que nous allons prendre à l'étude de ta parole, et nous avons besoin que tu nous instruises. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et que le Dieu d'Israël, qui a conduit vos pas jusqu'à ces lieux, vous bénisse encore davantage. Le message de ce matin a pour titre l'évangélisation et l'expression naturelle de la foi du chrétien. Je répète, l'évangélisation est l'expression naturelle de la foi du chrétien. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, frère, sœur, l'évangélisation est l'expression naturelle de ta foi? Tu peux lui dire encore avec beaucoup de conviction en regardant dans mes yeux que l'évangélisation, c'est l'expression naturelle de ta foi. Mon objectif est simple ce matin. C'est de vous faire comprendre que tout disciple de Jésus-Christ, si tu reconnais que tu es un disciple de Jésus, et écoute bien ce que je vais te dire, c'est que tous les disciples de Jésus-Christ ont le devoir d'évangéliser le perdu. Il ne s'agit pas d'un choix, non, ils n'ont pas le choix, mais ils ont le devoir d'évangéliser le perdu. Je commence par prendre pour acquis que nous tous ici, nous sommes des enfants de Dieu. Mais si je me trompe, quelqu'un dans la salle peut me corriger juste en levant sa main pour me dire que non, moi je ne suis pas un enfant de Dieu. Puisque moi je pars d'un acquis, d'un principe que nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Mais je suis un homme, je peux me tromper. Alors, si je me trompe et que là où vous êtes vous, vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous pouvez juste lever votre main et dire, ne me comptez pas parmi les enfants de Dieu. Alors, s'il n'y a pas de main levée, vous allez me permettre d'avancer. Je disais que je prends pour acquis que toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant du royaume. Et que, en tant qu'enfant de Dieu, tu as été scellé du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être accepté en tant qu'enfant de Dieu. La Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais lorsqu'il décide que tu deviennes enfant de Dieu, il appose sur toi un sceau qui t'authentifie et t'identifie à la foi. Que cet homme, cette femme appartient maintenant aux enfants du royaume. Et ce sceau, c'est la présence du Saint-Esprit en toi. Raison pour laquelle je dis que je prends pour acquis que tu es un enfant de Dieu et que tu as été scellé du Saint-Esprit. Alors, en ta qualité d'enfant de Dieu scellé du Saint-Esprit, je vais te rappeler une chose, si tu l'as déjà oublié, ou te le dire si tu ne le connais pas. Qu'est-ce que je vais te rappeler? Je te rappelle, mon frère, ma soeur, qu'en ta qualité d'enfant de Dieu, en ta qualité d'enfant du royaume, tu as l'obligation de travailler pour le salut des perdus. C'est pourquoi je dis que l'évangélisation, c'est l'expression naturelle de la foi du chrétien. Comme le souffle de vie, quand tu respires, c'est une expression naturelle de ta vie, ce qui prouve que tu es en vie. De la même manière, en tant qu'un enfant du royaume, l'expression naturelle de ta foi, la façon la plus naturelle de dire au monde que tu es un enfant du royaume, tu es un enfant de Dieu, cette expression réside dans le fait que tu dois absolument annoncer la bonne nouvelle du royaume à ceux qui sont perdus. Et c'est ça la mission que le Maître nous donne. J'aimerais juste te faire comprendre, peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas, peut-être que tu l'as oublié. Je te rappelle, frère, sœur, tu n'as pas de mission sur la terre. Tu peux prier, prier n'est pas une mission. Tu peux chanter, chanter n'est pas une mission. Mais la mission que Dieu t'a confiée en te laissant sur la terre, c'est une seule mission, d'être le propagateur de la bonne nouvelle du royaume auprès de ceux qui ne les connaissent pas encore. Donc, tu as la responsabilité d'annoncer l'évangile du salut aux hommes et aux femmes qui sont autour de toi, si vraiment tu es un disciple de Jésus-Christ. Dans le texte que nous venons de lire de Matthieu, le cœur de mon message se trouve dans cette portion des Écritures qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Je m'arrête là. Ici, c'est le ressuscité qui parle. Il a pris rendez-vous avec ses disciples en Galilée. Et il est à quelques minutes pour quitter la terre et rentrer dans le sanctuaire céleste. Il est en train de leur donner ici les dernières instructions. Et la Bible me dit qu'il leur dit ceci, au verset 18, que mes amis, retenez une chose, que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Celui qui a le pouvoir, c'est le roi. Et lorsqu'il se présente comme celui qui détient non pas une portion de pouvoir, mais tout pouvoir, que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, alors Christ se présente ici comme étant le roi des rois, le véritable roi. Et lorsqu'il parle en tant que roi, je voudrais attirer votre attention sur une chose, quand le maître parle ici en tant que roi, c'est pour vous sensibiliser à écouter ce qu'il dit. Parce que lorsqu'un roi parle, il a besoin d'être obéi, point un trait. Alors, le maître se présente et dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, je vous donne un ordre. Allez. Allez où? Allez à travers le monde. Et faites de toutes les nations des disciples. Regardez ici que nous avons affaire à deux impératifs qui se suivent. Allez et faites. Pour dire que l'ordre qui est donné ici, ça ne se négocie pas. Mais comprenez une chose, que Jésus ne parle pas à tout le monde, il parle à ses disciples. Donc, si tu es disciple, mon frère, ma soeur, en ta qualité de disciple, tu n'as pas de choix. Peu importe la raison que tu peux avancer, tu n'as même pas de raison. Tu as l'obligation, si tu veux plaire à ton Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume à ceux qui ne les connaissent pas. C'est pourquoi j'insiste que l'évangélisation, c'est ça, l'expression même, la respiration d'un enfant du royaume ou d'un vrai disciple de Jésus-Christ. Il s'agit ici, comme je l'ai dit, d'un commandement. Et ce commandement n'est pas donné à tout le monde. Ce commandement est donné aux disciples, c'est-à-dire aux enfants du royaume. Et ce que le Seigneur attend de toi en tant que son disciple, à qui il donne ce commandement, c'est d'obéir, point et trait. Frères, sœurs, je vais attirer votre attention sur une chose que si Adam et Ève ont eu des problèmes avec Dieu, c'était à cause de la désobéissance. Adam n'avait pas fait l'impudicité, Adam n'avait pas volé, Adam n'avait pas trompé, mais Adam avait désobéi à l'ordre de Dieu. Et à cause de cela, le monde a été maudit, l'homme a été maudit. Et si toi tu ne veux pas agir comme Adam, je te rappelle que tu as l'obligation d'obéir à la recommandation de Dieu. Je ne veux pas te supplier aujourd'hui. Je l'ai dit il y a quelques semaines, que je vais te supplier. Et après, qu'est-ce que ma supplication va te faire si demain tu te retrouves en enfer ou si demain tu es rejeté par Dieu? Ma responsabilité, c'est de te dire la parole de Dieu comme Dieu veut que tu la connaisses. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Je te réveille, mon frère, ma soeur. Il y a beaucoup de recommandations, beaucoup de commandements que Dieu donne dans sa Bible. Et nous avons ici un commandement auquel tous doivent être liés. Un commandement auquel tous doivent obéir. Ce commandement, c'est quoi? C'est d'aller évangéliser, d'aller dire aux païens qui ne connaissent pas encore le message de l'évangile du royaume que venez, Jésus-Christ va vous donner la vie. Et de saisir toutes les opportunités qui te sont données pour pouvoir faire l'œuvre d'évangélisation. L'œuvre d'évangélisation dans une église, l'œuvre d'évangélisation dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas un choix. Tu ne vas pas dire que je vais évangéliser si je vais. Oublie ça, frère. Le même qui a dit que ne vole pas, si toi tu ne voles pas, le même qui a dit que ne pratique pas l'impudicité, si toi tu ne pratiques pas l'impudicité, le même qui a dit que ne mens pas à ton prochain, si toi tu ne mens pas à ton prochain, c'est le même qui dit va et fais de toutes les nations des disciples. Si alors tu as été obéissant à ce Dieu quand il t'a vu, prie et tu pries, tu dois obligatoirement être obéissant à lui pour pouvoir communiquer l'évangile du royaume à ceux qui sont perdus. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Parfois, on trouve parmi les chrétiens des raisonnements tels que non, moi je ne connais pas des gens, moi je ne veux pas parler aux gens. Non, les gens ont beaucoup de problèmes. Les gens auront toujours des problèmes. Ce ne sont pas les gens d'aujourd'hui qui ont des problèmes. Depuis que l'homme existe, il a toujours des problèmes. Mais depuis que l'homme existe, on l'évangélise toujours. Donc, il n'y a aucune raison qu'on puisse avancer. Et c'est très important ce que je suis en train de te faire comprendre ce matin. Dans Jean chapitre 8, verset 31, regardez encore bien ce qu'il dit. La Bible dit que Jésus dit aux Juifs qui avaient cru. Jésus n'a pas parlé à tous les Juifs. Jean chapitre 8, verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru que si vous gardez mes commandements, vous êtes vraiment mes disciples. Regardez ce que dit le texte. La Bible précise qu'il s'adresse seulement aux Juifs qui avaient cru. C'est comme moi je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que chrétien. Et le maître dit que si vous gardez mes commandements, vous êtes vraiment mes disciples. J'ai souligné vraiment dans ma Bible. L'idée qui est derrière ce message de Jésus-Christ peut se résumer tout simplement en ceci, que mes amis, si vous obéissez à mes commandements, alors vous êtes réellement mes disciples. Or, ce que nous venons de lire dans Matthieu 28, c'est un commandement de Dieu. Ce qui fait que si vous obéissez à ces commandements d'aller évangéliser le perdu, alors vous pouvez être compté parmi les disciples. Et en d'autres termes maintenant, Si vous refusez d'obéir à ses commandements, c'est que vous renoncez à être disciple de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin?
Amen.
Les choses ne sont pas compliquées à faire. Je vous en parle librement et avec beaucoup de clarté. C'est la Bible que j'explique. Si vous gardez mes commandements, c'est-à-dire si vous obéissez à mes commandements, alors vous êtes vraiment mes disciples. Cela implique que si vous n'obéissez pas à mes commandements, vous avez renoncé d'être mes disciples. C'est vous, ce n'est pas lui qui vous a rejeté. Et lorsque vous renoncez d'être disciple de Jésus-Christ, c'est que vous avez renoncé à la vie éternelle. C'est vous. Vous voyez, parfois il y a des choses très simples, mais qui peuvent compromettre notre éternité. Parce que nous nous amenons notre liberté dans les choses de Dieu. Surtout quand nous vivons dans un pays, entre guillemets, pays libre. Chaque personne dit que je suis démocrate, j'ai quelque chose à dire. C'est bien, frère. C'est bien. Mais devant la porte du ciel, ce n'est pas Jean Charest qui viendra te dire « Laissez-le entrer ». Là, c'est le roi des rois qui trône sur tous les rois de la terre. Et devant lui, aucun roi n'a le pouvoir d'être appelé roi, puisque c'est lui qui est le sommet, le top des rois, c'est lui l'Éternel. Donc, quand un roi qui est au top nous donne des ordres, c'est à lui que nous devons obéir, et non pas à celui qui est moins roi que lui. Il dit, si vous gardez mes commandements, alors vous êtes réellement mes disciples. Donc, nous devons garder les commandements de Jésus-Christ, y compris le commandement d'aller évangéliser, si nous voulons être ses disciples. Le mot disciple vient du mot latin discipulus, et il désigne un élève ou une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. En hébreu, ce mot est appelé talmid, et son correspondant en grec c'est mathétès. Alors, ce mot mathétès ou disciple apparaît 276 fois dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans l'Évangile et l'Acte des Apôtres. 276 fois, mathétès, disciple. Et il désigne quoi? Il désigne non pas seulement celui qui écoute l'enseignement, puisque un élève à l'école écoute l'enseignement, il est élève. Mais mathétès a quelque chose de plus. Non pas seulement j'écoute l'enseignement, mais je m'attache à mon maître pour m'identifier avec lui. Je peux être à l'école, le professeur peut m'enseigner. Je peux suivre son enseignement pour avoir des points. Mais je ne suis pas obligé de m'attacher à lui. Je ne suis pas obligé de le suivre partout où il est. Je ne suis pas obligé de lui obéir et d'aller faire la promotion de ce qu'il est auprès du monde. Mais par contre, quand on parle de mathétès, c'est que non seulement je suis l'enseignement de Jésus, mais je dois m'attacher à Jésus-Christ, lui vouer toute ma loyauté, lui obéir et être disposé à témoigner de lui auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Ce qui fait que quand vous rentrez dans l'Ancien Testament, quand un rabbin avait des disciples, parfois il y a des disciples qui quittaient leur maison pour aller vivre avec le maître. Le disciple devient alors une copie conforme au maître. Ce qu'il fait et reproduit, ce qu'il voit faire le maître. Il parle comme le maître, il adhère à la même idéologie que le maître. Or, quand nous rentrons dans l'exercice du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre maître et nous sommes ses disciples, nous allons voir que non seulement il a enseigné, mais la Bible nous dit aussi qu'il a parcouru des villes, des villages, des cités pour aller chercher les perdus. Et si alors nous sommes ses disciples, et que nous sommes attachés à lui, nous nous sommes identifiés à lui dans tout ce qu'il a fait, vous comprendrez qu'il ne nous reste pas assez de manœuvres pour que nous puissions faire comme le maître. La Bible dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais un disciple accompli, il devient comme son maître. Et nous, si nous sommes aujourd'hui des disciples accomplis, c'est que nous allons devenir comme notre maître, le Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, nous allons être à mesure de reproduire ce qu'il a reproduit. Il a prié, nous devons prier. Il a enseigné, nous devons enseigner. Il est allé chercher le perdu, nous allons chercher le perdu. En plus de cela, le mathétès a l'obligation de se soumettre au maître et d'être obéissant à tout ce que le maître dit.
parce qu'il est maître. Et comme le maître nous a dit, en tant que Matthès, il nous a dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Si réellement nous sommes de vrais Matthès, de vrais disciples, alors nous avons l'obligation d'aller faire. Peu importe ce qui va se passer dans le monde, parce que le maître a parlé, nous devons aller et nous devons annoncer la bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin?
Amen.
C'est le mot disciple. Jésus n'a pas laissé des chrétiens sur la terre. Jésus a formé seulement des disciples. Mais c'est les disciples, parce qu'ils se sont attachés de cœur au maître, parce qu'ils se sont identifiés au maître, parce qu'ils sont devenus comme le maître, c'est que quand les gens d'Antioche les ont vus, ils les ont appelés chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il y avait une identification parfaite entre ses disciples et leur maître Jésus-Christ. Même chose aujourd'hui, frère. Avant de vous glorifier être chrétien, il faut d'abord vous glorifier être disciple de Jésus-Christ. Puisque c'est le disciple qui a été appelé chrétien. Donc, en tant que disciple, s'il y a quelque chose que vous devez retenir dans votre cœur, c'est votre fidélité au maître, votre loyauté au maître, votre obéissance au maître. Et ici, le maître a dit quelque chose de simple. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et en tant que disciple, mon frère, ma soeur, vous comprenez que vous devez partir pour faire de toutes les nations des autres disciples. La première chose que je voudrais vous faire comprendre ce matin est que l'évangélisation est l'expression naturelle de la foi du chrétien. En d'autres termes, le travail numéro un de l'Église chrétienne, le travail numéro un de tout disciple de Jésus-Christ consiste à faire connaître Jésus-Christ au monde et à amener les hommes et les femmes à l'aimer et à le suivre. Nous sommes des agents de marketing d'une personne. Et cette personne s'appelle Jésus. S'il m'était permis de définir l'évangélisation aujourd'hui, je dirais que l'évangélisation, c'est le marketing du nom de Jésus-Christ. Point interne. Et en tant qu'agent de marketing, notre mission est simple. Un, faire connaître Jésus-Christ au monde. Le produit que nous vendons, nous sommes à l'époque où les gens vendent des produits. Nous sommes à l'époque où les gens font des grandes publicités à la télévision, sur Internet. Même lorsque vous voulez payer une pizza, vous voyez toujours la publicité. Ce sont des agents de marketing. Et nous sommes des agents de marketing, pas d'un produit, mais d'un nom. Ce nom-là, c'est le nom de Jésus-Christ et de toute son œuvre. Alors, quand nous allons au monde, première chose que nous devons faire, c'est de faire connaître Jésus-Christ au monde. Mais on ne se limite pas à ça. Faire connaître Jésus, c'est un pas. De amener le monde à l'aimer. Donc, je veux parler. C'est pourquoi parfois quand je prie, je demande à Dieu l'onction de persuasion. Donc, être capable de parler comme quand Paul a parlé devant Agrippa. Il a parlé, il a tellement bien parlé qu'Agrippa dit, hey Paul, tu ne vas pas faire de moi chrétien aujourd'hui. Très bien. Il a parlé de manière à toucher le cœur. Il a parlé de manière à convaincre. Il y a des gens qui parlent parfois des mensonges et qui convainquent dans le mensonge. Mais nous avons la vérité éternelle. Nous devons parler de manière à toucher le cœur, à convaincre le cœur, à faire comprendre au monde que Jésus-Christ est le Seigneur du ciel et de la terre et à amener les hommes à l'aimer, à lui donner leur vie. Même s'il y a des gens qui parlent mal contre Jésus, notre responsabilité, c'est de démolir tous les mensonges qu'ils plantent et d'établir que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est roi. Et lorsque les gens vont l'aimer, ce n'est pas tout. Les influencer à le suivre. Non seulement vous l'aimez, vous ne pouvez pas l'aimer à distance. Vous l'aimez et vous avez l'option de le suivre. Voilà notre mission faire. 1. Amener le monde à connaître Christ. 2. Amener le monde à aimer Christ. 3. Amener le monde à suivre Christ. Et nous avons fini notre œuvre d'évangélisation. Nous passons à une autre étape. C'est là la raison fondamentale pour laquelle Dieu nous a laissés sur la terre. Voilà pourquoi je dis que la première vérité que je fixe dans votre esprit ce matin, c'est que la mission numéro un de l'Église, c'est de faire connaître Jésus-Christ. C'est que l'évangélisation, c'est l'expression naturelle de l'Église, l'expression naturelle de la foi du chrétien. Une Église qui ne fait pas l'évangélisation est vouée à disparaître. Un chrétien qui qui ne fait pas l'évangélisation renonce à son statut de chrétien. Les choses ne se disent pas autrement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi ce matin? Frère, je vous dis la vérité. Si dans votre cœur vous boudez, faites attention. C'est que quelqu'un veut vous mettre sur le chemin qui mène à l'enfer. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Vous allez le comprendre avec cette issue. Nous avons l'obligation d'évangéliser les âmes perdues, d'avoir le souci des âmes perdues, comme le maître lui-même a eu le souci des âmes perdues. Nous avons l'obligation d'attirer les autres vers le Seigneur. Il a dit que lorsqu'il sera élevé en gloire, il attirera tous les hommes vers lui. Mais il veut se servir de nous comme des ambassadeurs pour attirer ces gens et les conduire à Jésus-Christ. Regardez, dans Jean chapitre 1, la Bible nous parle du récit d'André. André était disciple de Jean-Baptiste. La première fois quand Jean-Baptiste a baptisé le maître, je pense qu'André et les disciples, ils étaient là. Et Jean a donné ce témoignage en disant que c'est lui l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. La Bible dit que le lendemain, Jésus passait par là et Jean était encore là avec quelques-uns de ses disciples. Et Jean a répété les mêmes choses. Quand il a répété l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et deux disciples se sont détachés de Jean pour suivre Jésus-Christ. C'était André et un autre disciple qui n'est pas identifié. Lorsqu'ils ont approché Jésus, ils lui ont demandé, « Maître, où est-ce que tu habites ?» Et le maître les a conduits jusque là où il habitait. Ils ont jasé toute cette journée-là. Mais voilà que lorsque André retourne, le premier réflexe d'André, c'est d'aller voir son frère Simon Pierre et lui dire, « Nous avons trouvé le Messie, viens avec moi. » Et il a conduit Pierre jusqu'à Jésus et Jésus a prophétisé sur Pierre qu'il était Simon, fils de Céphas. Et depuis ce temps-là, Pierre est resté une colonne dans l'œuvre évangélique de Jésus-Christ. Vous voyez comment André a réagi? Est-ce que nous tous, nous pouvons réagir comme André? Puisque lorsque la Bible reprend ce récit, c'est juste pour activer notre pensée. Nous voyons ce que les autres font pour que nous puissions l'imiter. Quand vous êtes venu au Seigneur, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, quand vous êtes parti, qu'est-ce que vous avez fait? Regardez toujours dans le même texte. Il y a l'exemple de Philippe. La Bible dit que Jésus a croisé Philippe et lui a dit, toi, suis-moi. Et Philippe a suivi Jésus. Lorsque Philippe est entré en contact avec Jésus, la façon dont Jésus l'a impacté. Quand il part, n'est-ce pas, rapidement, il voit son ami Nathanaël, il dit, Nathanaël, viens, nous avons découvert le Messie qui vient de Galilée. Nathanaël a cherché à discuter, Philippe n'est pas entré dans ce discours théorique vide. Il a insisté, viens tout simplement et vois. Et lorsque Nathanaël s'est présenté devant Jésus, dès que Jésus a prophétisé sur lui, c'est fini, Nathanaël est devenu disciple. Même chose, quand vous regardez le récit de la femme samaritaine. La femme samaritaine va rencontrer le maître au puits de Jacob. Le maître va lui dévoiler son cœur. Et la femme va comprendre qu'elle a affaire avec le Messie. Qu'est-ce que la femme samaritaine a fait? Elle a abandonné sa cruche au puits de Jacob. Et elle est allée publier partout dans le village que venez voir un homme qui m'a dit toute ma vie, c'est lui le Messie, et le village entier a été gagné. Parfois, ce qui vous empêche d'aller parler au monde, c'est votre cruche, frère. C'est votre cruche. Dans cette cruche, on va trouver tous les plaisirs du monde. Dans cette cruche, on va trouver peut-être les impuretés qui peuvent se nommer et qui ne peuvent pas se nommer. On va trouver dans la crèche le mensonge, le péché de tout genre. Vous savez que si votre crèche est pleine de péchés, et si vous la portez avec vous, vous ne pouvez pas évangéliser. Amen, Église. Nous disons des choses vraies. Je ne vous invente rien, frère. Je vous dis des choses que vous connaissez, mais je vous le réveille parce que Dieu a un plan avec vous ce matin. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes un ministre de Dieu, un serviteur de Dieu. Vous êtes allé dans un bar. Vous avez bu, vous avez dansé, vous avez sauté. Dites-moi, après avoir bu, si vous trouvez un monsieur qui s'appelle aussi monsieur Grégoire, qui est dans le même bar, vous pouvez commencer à lui parler de l'évangile. À lui dire, frère, crois au Seigneur Jésus-Christ, nous allons aller à l'église. Il vous a vu avec les prostituées à côté. Est-ce que vous aurez vraiment... Amen, bien-aimé. Est-ce que vous aurez le courage d'ouvrir votre bouche pour lui dire, frère, Jésus t'aime? Il va te regarder, dit-il. Toi aussi, tu es chrétien. Si tu dis oui, il dit que non, je ne deviendrai jamais chrétien à cause de ça. Bref, c'est parce que la criche est encore là à côté. Mais si tu fais comme la Samaritaine, tu prends la criche, tu laisses au pied de Jacob, tu pars main vide. Tu vas lui dire, mon frère, Jésus-Christ t'aime. Il dit, mais toi tu étais avec nous. Oui, hier j'étais avec toi au bar. Mais aujourd'hui, je ne suis pas avec toi parce que je l'ai rencontré et il a transformé ma vie. Ça comme témoignage, parce que la cruche est restée, la personne va croire et il va donner sa vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bref, frère, sœur, dis à ton voisin, attention avec la cruche. Qu'est-ce qu'il y a dans ta cruche? Elle va... Elle va t'empêcher de gagner les âmes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut plutôt vider la cruche, il faut la laisser loin et aller voir le maître. Alors, vous serez à mesure de pouvoir aider ceux qui ne le connaissent pas à le connaître aussi et à être sauvés. La deuxième chose que je verrai vous faire comprendre ce matin, c'est que l'aptitude ou notre aptitude à évangéliser nous vient du Saint-Esprit. Je répète, notre aptitude à évangéliser nous vient du Saint-Esprit. Regardez dans Matthieu. La Bible dit que faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai le maître promis d'être avec vous. Or, lorsque vous retournez dans Jean, vous apprendrez que quand Jésus dit « Je reviendrai vers vous », ce n'est pas Jésus en chair qui revient vers nous, mais il est revenu sous forme du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous, qui vous rend apte à évangéliser. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Le maître dit ceci. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Regardez bien ce que le maître dit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et c'est cette puissance du Saint-Esprit qui va venir sur vous, qui va vous rendre capable, qui va vous rendre apte à évangéliser. Je vais vous faire comprendre une chose. J'ai dit que je prends pour acquis que tous nous sommes des enfants de Dieu et que tous nous sommes scellés du Saint-Esprit. Mais voilà que le mandat du Saint-Esprit nous est libéré ici. Que le Saint-Esprit est appelé à nous rendre apte à évangéliser.
Ce qui veut dire que si vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est que obligatoirement vous devez être capable d'évangéliser. Je ne sais pas si quelqu'un me
suit très bien, merci bien. Hein? Je répète, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Point. Or, nous sommes tous des enfants de Dieu et que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Si donc nous avons reçu le Saint-Esprit, cela implique que le Saint-Esprit nous a qualifiés, nous tous, à évangéliser. Et que tous, nous avons l'aptitude à évangéliser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Merci. Mais je vais retourner l'équation de ces raisonnements. Si vous, Vous prétendez que vous avez le Saint-Esprit et que vous dites que vous ne pouvez pas évangéliser. Question, est-ce que réellement vous avez le Saint-Esprit?
Non.
Écoutez, frère, je ne cherche pas à blesser quelqu'un ce matin, mais je vous parle pour votre salut. C'est ça ce que Dieu attend de vous. Je peux me lever, parler en langue. Je peux me lever, faire tout ce que je fais, prêcher, prier, chanter, c'est bien. Mais la Bible me dit que si vous avez le Saint-Esprit, vous serez alors apte à évangéliser. Ce qui fait que si moi je dis, pour quelque raison que ce soit, que non, moi je ne sais pas parler, moi je ne veux pas parler avec des gens, moi je ne suis pas capable, ou tel autre va le faire, cela a un grand danger. Le danger c'est que vous reconnaissez par là que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que si vous aviez le Saint-Esprit, naturellement, il vous pousserait à évangéliser. Et si donc vous n'évangélisez pas, donc vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et si donc vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est que vous êtes un païen, que vous êtes sur le chemin de la mort. Je pense que les choses sont claires. Ah, ce que Dieu m'a dit pour vous aujourd'hui, c'est de vous réveiller, de vous faire comprendre ces choses comme les choses sont. Je vous dis, frère, si vous parlez en langue, c'est une bonne chose. Si vous prophétisez, c'est une bonne chose. Mais si vous n'êtes pas capable d'annoncer au monde que Jésus-Christ est Seigneur, c'est que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que vous avez, ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit de Dieu, c'est que vous êtes sur le chemin de la mort. Alors, vous devez faire très attention. Regardez ce qui s'est passé le jour de Pentecôte. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur les 120 qui étaient dans la chambre haute. Dès que le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à parler dans de nouvelles langues. Mais le texte ne s'arrête pas là. Ils parlent dans de nouvelles langues et ils proclament le merveille de Dieu. Le Saint-Esprit ne nous a pas dit ce que chacun des 120 disait. Mais le Saint-Esprit nous révèle tout simplement qu'il proclamait les merveilles de Dieu. Je m'imagine que Nathaniel disait, Jésus-Christ est Seigneur. Si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, tu vas avoir la vie. Je vois Marie de l'autre côté qui dit que nous, nos peuples de Dieu, reconnaissaient que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà, chaque personne entendait les disciples parler des merveilles de Dieu. Et Dieu a choisi qu'ils puissent parler dans toutes les langues pour qu'une personne ne donne une excuse que moi je n'ai pas compris ce qu'ils ont dit. Ils ont parlé dans ta langue maternelle pour que tu le comprennes très bien et sans écran. Et tous ont compris. Continuez à lire le texte. La Bible nous dit que ce même jour-là, il y a eu 3000 âmes qui se sont converties. Je fais le calcul rapide. Le Saint-Esprit est descendu sur 120 personnes. Et le premier jour, ils ont gagné 3000 âmes. Division, multiplication, addition, ça donne 25 âmes par personne. Voilà au moins le calcul simple. Ils ont été capables de gagner chacun 25 personnes par jour. Écoutez, frère, imaginez que vous ne soyez pas à mesure de répliquer ce qui s'est passé le jour de Pentecôte par jour. Mais si vous vous dites, ce que Nathanaël a fait par jour, moi je vais le faire par an. Si vous gagnez 25 personnes par an, et je vais vous dire que c'est possible, c'est faisable. Parce que l'aide nous vient du Saint-Esprit. Et si réellement vous avez le Saint-Esprit, vous devez croire que c'est possible. Si vous croyez que ce n'est pas possible, c'est que le Saint-Esprit n'agit pas en vous. Et imaginez, vous êtes au nombre de 12. Frère, moi, j'arrêterai de rêver lorsque je serai mort. Quand vous allez m'enterrer, vous dites, bon, fini. Là, c'est dans le lieu très saint qu'il va adorer Dieu. Tant que je suis vivant, je vous l'ai dit, l'arche de Dieu, plus de 1000 âmes, c'est un fait. Pourquoi? Avec 12 personnes, 10 personnes, je vous dis là, 1, 2, 3, 4, nous sommes 10. Avec l'aide du Saint-Esprit, visons chacun 10 âmes par année. Le minimum acceptable, ou 12 âmes, en raison d'une âme par jour, et par mois. 10, non? La première année, 12, ça nous fait déjà 120. Non. 100, oui, 120 plus 10, nous sommes à 130. La deuxième année, 12. 100 fois 12, nous sommes déjà où? On est déjà dépassé le bar des 1000. Frère, si les églises sont remplies, c'est juste parce que les gens ne sont pas à l'écoute de ce que le Saint-Esprit veut faire pour eux. Amen. Amen. Rassurez-vous que nous sommes, avec l'aide du Saint-Esprit, je vous le jure, au nom de Jésus-Christ, plus de 1000 âmes, même plus de 5000 âmes, si tous ont la volonté de travailler dans la même direction, si tous ont la volonté de se soumettre au Saint-Esprit de Dieu. Le vrai problème, c'est la désobéissance. Ce n'est pas que Dieu a cessé d'agir, c'est parce que les gens veulent toujours discuter des choses inutiles. Si vous regardez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1 que nous venons de lire, Jésus-Christ a prêché pendant 40 jours aux disciples après sa résurrection. La Bible précise qu'il leur a parlé des choses concernant le royaume de Dieu. Mais lorsqu'il voulait partir, la Bible dit que les disciples se sont réunis. Ils ont dit que non, le maître a oublié de nous parler d'un chapitre important. Dit que maître, quand est-ce que tu vas restaurer le royaume d'Israël? Voilà ce qui les préoccupait. Ce qui les préoccupait, c'est la restauration du royaume d'Israël. Qu'est-ce qui vous préoccupe vous aujourd'hui? Il y a bien des choses qui vous préoccupent, frère. Mais le maître leur dit que pourquoi vous vous mêlez à ça? À quoi cela vous concerne? Voilà pourquoi le verset 8 commence par un mais. Mais vous, vous recevrez une puissance. Ne vous occupez pas de ça. Ça ne vous concerne pas quand ça appartient seulement à Dieu. Mais voici votre travail. Vous allez recevoir une puissance et vous allez me témoigner. Frère, si nous abandonnons nous tous toutes les questions vagues, floues, les discussions qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, pour nous concentrer sur notre mission, on peut dire que ces hommes qui ont perturbé le monde entier sont arrivés jusque chez nous. Vous allez bouleverser la ville de Montréal. Comment pouvez-vous accepter que le gay puisse être fier de s'appeler gay? Mais l'enfant du royaume n'est pas fier de s'appeler chrétien. Partout où je travaille, le premier jour, tout le monde doit savoir que moi je suis pasteur. Le premier jour, homme ou femme, qui que ce soit, sauf que celui qui a des faux calculs, qui comprennent que les calculs vont taper à côté. Dès que j'arrive, je dis bonjour, bonjour, vous appelez qui? Oh, je m'appelle Yves Favre, moi je m'appelle pasteur Badi. Vous êtes pasteur? Oui, oui, je suis pasteur. Quelle église acheter? Dès le premier jour, que vous soyez mon chef ou qui, tout le monde sait que cet homme-là est pas. Pourquoi? La Bible dit que je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Comment moi je puis avoir honte de la puissance de Dieu manifestée en chair? Avoir honte de Jésus-Christ de Nazareth? Jamais de la vie! Je sais ce que Jésus a fait de moi. Je suis content d'être frère comme frère au ministère Gouba qui vient de se joindre à nous. Mais qui seul de lui-même, il est capable de prendre les pamphlets, il va se tenir au métro sans être parrainé par quelqu'un. Non, seul il va et il va faire le travail. Hier, en entrant ici, j'ai trouvé que pendant qu'il faisait le travail de distribuer les pamphlets, quelqu'un d'autre lui a aussi distribué un livre. Et le livre, c'est sur les 10 commandements. Vous voyez, c'est de cette manière là-bas. Il y a même la fierté. Quand vous faites l'évangélisation, n'est-ce pas? Vous gagnez une âme, vous retournez dans la joie. La Bible dit que les disciples sont rentrés dire au maître, maître, même les démons nous ont été soumis. Quand est-ce que les démons vont se soumettre? Il y a beaucoup de gens qui cherchent à opérer des miracles. Mais vous cherchez à opérer des miracles pour Dieu ou pour vous? Écoutez-moi, Église. Posez-vous la question clairement. Tout le monde qui cherche à opérer des miracles, cherche à opérer des miracles pour la gloire de Dieu, pour sa propre gloire. Voilà pourquoi il y en a qui vont chercher des fétiches. Pourquoi? Parce que c'est que quand je vais opérer des miracles, faire tomber des gens, les gens vont venir à moi. Mais nous n'avons pas besoin que les gens viennent à nous. Nous faisons office des amis de l'époux. L'autre travail, c'est de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'agneau de Dieu dit ceci, allez! Donc, première chose, c'est que allez. Deuxième chose, faites de toutes les nations des disciples. Et c'est alors que Marc va ajouter, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le verbe accompagner est très important dans cette phrase. C'est que quand vous sortez, vous allez. Je vais vous le dire, frères, sœurs, ce n'est pas vous qui opérez le miracle, c'est Dieu qui le fait. Je pense que parce que le verbe peut se rappeler, ça fait très très longtemps. On est parti avec l'ancien pasteur avec qui nous travaillons. Au nord de Mirabel, on sortait le soir pour aller faire l'évangélisation vers Mirabel, à Saint-Jérôme, au nord là. Vous voyez, les amis blancs qui sont à côté de vous, vous ne savez pas qu'ils sont pleins de problèmes. Parfois, comme pasteur notre le disait, on est comme la poule, on pique là-bas, on n'a même pas le temps de regarder. On n'a même pas le temps de regarder à côté. Dès qu'on se mettait à parler avec ces gens-là, Quand vous levez la main pour prier, vous n'avez même pas posé la main pour dire que non, non, on a poussé, quelqu'un au cou. On veut égorger la guérir, je vais tomber. Non, pas ça. Dès que vous levez la main pour dire au nom de Jésus-Christ, les démons sortent avec la personne et jettent la main. Mais quand est-ce que ces choses sont faisables? Ces choses, ce n'est pas le spectacle à l'église. Vous sortez, frère. Grégoire, sors là, tu vas voir. Quand tu vas revenir, tu ne vas pas dire que non, non, c'est elle qui est capable. Non, je vous le jure, frère. Sortez. Là, vous accomplissez la parole. Vous rentrez dans la vision de la parole. Quand vous sortez, vous allez, il y a une promesse qui dit que voici les miracles qui accompagneront. Et quand vous allez parler à ce païen, deux, trois ou quatre, vous qui n'avez jamais prié ici, dès que vous levez la main pour prier, vous allez voir ce que Dieu va faire. Alors, de tels miracles visent la gloire de Dieu. C'est pour que ces gens-là reconnaissent que l'Éternel est Dieu. C'est Jésus que vous vendez. Mais vous ne vendez pas les miracles. La dernière vérité que je vais partager avec vous avant de terminer, c'est que Dieu bénit et protège ceux qui le servent. J'ai utilisé deux verbes. Dieu bénit et protège ceux qui le servent. Bénir, Exode chapitre 23, il vous dit que vous servirez l'Éternel votre Dieu et il vous bénira. Vous avez toute la suite des bénédictions dans Exode 23 à partir du verset 25. Qu'est-ce que cela veut dire? Évangéliser, c'est servir Dieu. Dès que vous, vous oubliez vos problèmes, vous êtes malade. Avec votre maladie, vous vous levez, vous, vous allez évangéliser. Rassurez-vous que l'Éternel va vous bénir. Parce que la Bible dit qu'il est toujours derrière sa parole et il veille à son accomplissement. Deuxième verbe que j'utilise ici, c'est le verbe protéger. Quand vous vous levez et vous allez servir Dieu, Dieu va prendre soin de vous, c'est-à-dire qu'il va vous protéger. Comment cela? Je vais vous donner deux ou trois petits exemples. Lorsque vous sortez pour aller évangéliser, c'est que vous avez une mission que vous êtes en train d'accomplir pour Dieu. Et là, Dieu a l'obligation de vous protéger pour que vous puissiez accomplir sa mission. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Dieu vous a confié une mission. Si Dieu ne vous protège pas, comment est-ce que vous allez accomplir sa mission? Donc, dès que vous vous levez pour aller accomplir la mission de Dieu, Dieu a l'obligation de vous protéger. Premier exemple. Moïse est né lorsque Pharaon avait ordonné que tous les petits garçons des Hébreux soient tués en Égypte. Mais pourquoi Moïse va échapper à la mort? Moïse va échapper à la mort parce que Dieu avait une mission avec lui qu'aucune autre personne ne pouvait réaliser. Dieu savait que c'est par Moïse que moi je vais libérer Israël d'Égypte. Mais Moïse est né au milieu d'une grande persécution. Mais parce que Dieu savait qu'il avait une mission à accomplir avec Moïse, il était de son devoir de protéger Moïse. Raison pour laquelle l'enfant a été gardé par sa maman. Et sa maman ne savait pas que cet enfant a une mission importante avec Dieu. Et lorsque les 3 mois sont écoulés, au lieu de tuer l'enfant ou de l'abandonner, où sa maman va fabriquer un corbeil et on va mettre l'enfant sur le fleuve parmi les gens. Même là encore, Myriam, sa sœur, va se tenir à côté. Elle va se tenir à côté pourquoi? Pour assister au décès de son frère. Non, c'est Dieu qui est en train de conduire l'histoire. Et c'est au même moment que la fille de Pharaon va venir se baigner. Et c'est au même moment que le petit qui n'a pas pleuré dans la maison pendant 3 mois pour qu'il ne soit pas déniché, va pleurer maintenant parce qu'il sait que l'heure est arrivée, la main de Dieu va se lever. Pourquoi est-ce que Dieu va protéger Moïse? Dieu va protéger Moïse parce qu'il avait une mission à accomplir avec lui. Frères, sœurs, si vous avez une mission, vous vous inscrivez dans la vision de l'évangélisation de Dieu, vous devenez son partenaire. Vous pouvez compter sur sa main dans tout ce que vous faites. Même si on vous dit que dans 4 jours, on va vous refouler. Mais parce que vous avez une mission à accomplir avec Dieu ici, rassurez-vous que la main puissante de l'Éternel va se manifester afin que la mission s'accomplisse. Un deuxième exemple, c'est l'exemple de Jésus-Christ et de Jean-Baptiste. Lorsque les mages disent à Hérode qu'un autre roi est né, Hérode se met en colère. Et Hérode va dire aux mages, rapportez-moi les nouvelles du petit enfant, je vais aussi lui rendre hommage. Mensonge pour le tuer. Mais quand les anges ont été avertis par l'ange et ils ont pris une autre direction, Hérode, pour s'assurer que le petit est tué, il a calculé l'âge et il a ordonné que tous les enfants puissent être tués. Mais Dieu avait une mission avec les enfants. Il avait une mission avec Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ. Et il avait une mission avec Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Si Dieu permettait que Jean-Baptiste meure, s'il permettait que Jésus-Christ meure, comment est-ce que la mission de sauver l'humanité allait se réaliser? Est-ce que quelqu'un me suffit? Voilà pourquoi, contrairement à tous les autres enfants innocents, Dieu va envoyer son ange dire à Joseph, quitte avec le petit, va en Égypte. Et il est allé en Égypte. Il va se révéler à Zacharie et à Elisabeth, fuyez avec l'enfant. Je vous ai raconté quand je suis revenu d'Israël qu'il y a une tradition là-bas que lorsqu'ils ont vu, c'est la montagne qui est venue au secours de Jean-Baptiste, que la maman a fui la montagne, il y a une pierre qui s'est ouverte, il a introduit l'enfant et la pierre s'est refermée, ce qui fait qu'on n'a jamais réussi à mettre la main sur Jean-Baptiste. Même chose, vous voyez, la Bible dit que Hérode a fait décapiter Jacques, mais Dieu a libéré Pierre. Tous sont des apôtres. Pourquoi on va décapiter Jacques et on va libérer Pierre? C'est que la mission de Jacques était terminée. Mais avec Pierre, Dieu avait encore des choses à réaliser. Voilà pourquoi il a été tenu à le protéger. Frères, sœurs, je vais vous dire ceci pour terminer. Si vous avez vraiment une mission, donnez-vous d'ailleurs une mission avec Dieu si vous voulez bénéficier de sa protection. Je termine là et que Dieu vous bénisse.